C'est pour des raisons similaires que Candy avait rejoint le mouvement du RUB. Avec certaines camarades du salaire au travail ménager, elle commençait à se dire « Bon, c'est bien joli tout ça, mais si on voulait mettre en œuvre un programme concret, il ressemblerait à quoi ?» Candy. Quand on distribuait des tracts dans la rue pour le salaire au travail ménager, on observait deux types de réactions chez les femmes qu'on abordait. Soit « Génial, comment je peux m'inscrire ?» Soit « Vous osez réclamer de l'argent pour des choses que je fais par amour ?» C'était assez compréhensible, en fait. Ces femmes s'opposaient à l'idée de marchandiser toute activité humaine. Et c'est précisément ce qu'impliquait le salaire au travail ménager. Quand je lui ai exposé mon analyse de la nature inquantifiable du soin, Candy m'a renvoyé à l'un de ses auteurs fétiches, le penseur socialiste français André Gorze, qui a développé des arguments similaires il y a plus de 40 ans. Candy. Gorze trouvait que le salaire au travail ménager valorisait la dimension de soins présente dans l'économie mondiale en termes exclusivement financiers. À ses yeux, le risque était qu'on en vienne à attribuer à diverses formes de soins une valeur en dollars en décrétant que c'était leur valeur réelle. Or, quand on monétise et quantifie ainsi une part croissante du soin, cela revient un peu à le bousiller. La monétisation tend souvent à diminuer la qualité du soin, en particulier si elle prend la forme, comme c'est généralement le cas, de listes de tâches précises auxquelles sont alloués des temps limités. Gorze a écrit ça dans les années 1970, et c'est exactement ce qui s'est passé, y compris dans l'enseignement ou les soins médicaux. Leslie. Sans parler de ce que je fais. David. Mon expression, c'est « bullshitisation ». Candy. C'est ça, absolument. Tout a été bullshitisé. Leslie. Le revenu universel de base, à l'inverse. Il me semble avoir récemment lu ou entendu Sylvia Federici expliquer que, dans les années 1970, les Nations Unies, imitées par un tas d'autres institutions mondiales, se sont en quelque sorte raccrochées au féminisme comme moyen de résoudre la crise du capitalisme. Le raisonnement était « Mais oui, intégrons les femmes et les aidants dans la main-d'œuvre rémunérée », sachant que, au sein de la classe ouvrière, beaucoup de femmes faisaient déjà des doubles journées. Le problème, c'est que c'était moins une manière de donner plus de pouvoir aux femmes que de discipliner les hommes. Il ne faut pas se leurrer. Le rapprochement des rémunérations qu'on observe depuis cette époque s'explique bien davantage par une baisse des salaires ouvriers masculins en termes réels que par une hausse des salaires féminins. Ils essaient toujours de nous monter les uns contre les autres. Et c'est vers ça qu'on va aussi avec toutes les méthodes visant à déterminer la valeur relative des divers types de travail. Voilà pourquoi l'étude pilote menée en Inde sur le revenu de base est si enthousiasmante. Déjà, on observe une diminution considérable des violences conjugales. C'est logique, car je crois qu'il a été démontré que 80% peut-être des disputes domestiques dégénérant en violence concernent des questions d'argent. Mais le plus important, c'est que cela commence à éroder les inégalités sociales. Verser à chacun une somme identique, c'est un point de départ fondamental compte tenu du pouvoir symbolique de l'argent. Quand vous donnez exactement le même montant à tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, castes inférieures et castes supérieures, ces différences s'estompent petit à petit. Par exemple, dans l'expérience indienne, on a pu voir que les filles commençaient à recevoir la même quantité de nourriture que les garçons. Ce n'était pas le cas auparavant. Que les handicapés étaient mieux intégrés dans les activités du village. Que les jeunes femmes abandonnaient l'attitude modeste et réservée qui leur avait été imposée par les conventions sociales et osaient désormais se promener dans la rue comme les hommes. Elles se mettaient à participer à la vie publique. Ce que cela nous apprend, c'est qu'un système de revenus universel de base doit allouer à chacun un montant suffisant pour permettre de vivre décemment. Et surtout, il doit être totalement inconditionnel. Tout le monde doit y avoir droit, même ceux qui n'en ont pas besoin. ça vaut vraiment le coup d'essayer. C'est une manière d'affirmer que, lorsqu'il en va des fondamentaux de l'existence, tout le monde mérite la même chose, sans condition. De cette façon, on instaure un droit humain et non pas une aumône ou un simple rafistolage quand d'autres sources de revenus font défaut. Si certaines personnes ont des besoins supplémentaires, par exemple les handicapés, alors on s'en occupe aussi à part, mais seulement après avoir établi le droit de chacun à la subsistance matérielle. Voilà sans doute l'élément qui étonne et déroute le plus à propos du revenu de base. Attendez, vous n'allez quand même pas filer 25 000 dollars par an, ou quelle que soit la somme, Rockefeller aussi? Eh bien si. Tout le monde, c'est tout le monde. En même temps, ce n'est pas comme si ce montant risquait d'être énorme. Le nombre de milliardaires sur la planète n'est pas si élevé. En outre, les riches pourraient être imposés plus lourdement. Et puis, n'oublions pas qu'un système sous condition de ressources, même s'il fonctionnait à l'inverse de celui d'aujourd'hui, puisqu'il viserait à exclure les milliardaires, supposerait une bureaucratie dédiée. Or, l'histoire nous a appris que ce type d'administration a toujours une fâcheuse tendance à l'embonpoint. Au bout du compte, la proposition centrale du revenu de base, c'est de déconnecter les moyens de subsistance du travail. Une conséquence immédiate pour les pays qui l'instaureraient serait un recul massif des procédures bureaucratiques. En effet, le cas de Leslie montre bien qu'une part démesurée de la machinerie gouvernementale, de même que tout le halo d'associations qui l'entoure dans la plupart des sociétés riches, évoluant à la frontière entre le privé et le public, ne sert qu'à maintenir les pauvres dans leur situation humiliante. Et ce petit jeu, au coût moral exorbitant, soutient une machine à travailler mondiale largement inutile. Qu'en dit ? Un exemple il y a peu. Je me suis dit que j'aimerais bien devenir famille d'accueil pour un enfant. Je suis allé regarder les conditions et les avantages associés. C'est pas mal du tout. On vous donne un appartement en HLM, plus 250 livres par semaine pour tous les frais. Brusquement, j'ai réalisé un truc. Ça fait 13 000 livres par an, plus un appartement pour un seul gamin. À tous les coups, ce sont des ressources dont ses parents ne disposent pas. Mais si on les leur avait données à eux directement, cela leur aurait peut-être évité quantité d'autres problèmes et le gosse n'aurait jamais eu à être placé en famille d'accueil. Naturellement, tout cela ne tient même pas compte des autres coûts, les salaires des fonctionnaires qui organisent et supervisent le placement, l'immeuble où ils travaillent et l'entretien des bureaux, les divers organismes qui les chapeautent et contrôlent leurs faits et gestes, l'immeuble et l'entretien des bureaux où ceux-là travaillent, et ainsi de suite. Je ne vais pas m'étendre ici sur les modalités concrètes de mise en œuvre du revenu de base. Si beaucoup de gens doutent de sa faisabilité, mais où allez-vous trouver l'argent? C'est parce que tout ce qu'on nous a appris sur la nature de la monnaie, la façon dont elle est produite, l'objectif réel de l'impôt et quantité d'autres questions qui dépassent largement l'objet de cet ouvrage est fondamentalement faux. Pour compliquer encore les choses, des visions radicalement opposées du revenu universel coexistent. La version conservatrice considère que le versement à tous d'un salaire modeste justifierait l'abolition pure et simple de certaines garanties de l'État-providence, telles que l'école gratuite ou la couverture santé, ce qui reviendrait à soumettre l'ensemble des activités humaines à la loi du marché. La version d'extrême-gauche, celle que défendent Leslie et Candy, suppose au contraire le maintien de protections inconditionnelles existantes, comme un organisme public chargé de la santé, à l'image du British National Health Service. L'une voit dans le revenu de base un moyen de restreindre la zone de conditionnalité, l'autre un moyen de l'élargir. En dépit de mes positions résolument anti-étatiques, je pourrais soutenir une solution inspirée de la seconde version. Je l'ai dit, en tant qu'anarchiste, je souhaite le démantèlement total des États et, en attendant, je n'encourage aucune politique susceptible de leur conférer plus de pouvoir qu'ils n'en ont déjà. Mais, si étrange que cela puisse paraître, c'est précisément pour cette raison que je suis favorable au revenu de base. À première vue, le revenu de base semble impliquer un accroissement du pouvoir de l'État, puisque, selon toute probabilité, c'est le gouvernement qui créerait et distribuerait l'argent, ou en tout cas une instance semi-étatique comme une banque centrale. En réalité, c'est exactement l'inverse. Des portions entières du gouvernement, précisément les services les plus intrusifs et les plus ignobles, ceux qui se spécialisent dans la surveillance morale des citoyens ordinaires, perdraient instantanément leur raison d'être et fermeraient leurs portes. C'est vrai, des millions de petits agents publics tels que les conseillers en prestations sociales verraient leur job disparaître. Mais ils recevraient un revenu de base comme tout le monde et peut-être que certains se trouveraient une occupation réellement importante, qu'il s'agisse d'installer des panneaux solaires pour reprendre la suggestion de Leslie ou de découvrir un remède contre le cancer. Et même s'ils décidaient plutôt de monter un groupe de percussion sur bidon, d'essayer de battre le record d'activité sexuelle à un âge avancé, de se lancer dans la restauration de meubles anciens, la spéologie, la traduction de hiéroglyphes mayas ou que sais-je encore, ce ne serait pas plus grave que cela. Laissons-les faire ce qui leur chante. Quel que soit leur choix, il les rendra à coup sûr plus heureux qu'ils ne le sont aujourd'hui à sanctionner les chômeurs arrivés en retard au séminaire « Rédaction d'un CV » ou à s'assurer que les sans-abri présentent bien 3 preuves d'identité différentes. Et leur bonheur retrouvé rejaillira sur tout le monde autour d'eux. L'instauration du revenu de base, même à un niveau modeste, pourrait être une première étape vers la rupture la plus profonde de toutes, celle qui consistera à désolidariser totalement le travail de la subsistance. On l'a vu au chapitre précédent, payer tout le monde pareil, indépendamment du travail fourni, est parfaitement défendable d'un point de vue moral. Mais les arguments que nous développions alors supposaient toujours que le salaire était versé en échange d'un travail. Or, s'assurer que les gens travaillent effectivement, même sans se soucier de leur ardeur ou de leur productivité, cela exige un contrôle bureaucratique sous une forme ou une autre. Un programme intégral de revenus de base éliminerait la contrainte du travail en offrant à tous un niveau de vie décent. Ensuite, chacun serait libre de décider s'il préfère accroître sa richesse par le biais d'un emploi rémunéré ou d'une activité de vente ou faire autre chose de son temps. Un tel programme pourrait également ouvrir la voie à d'autres modalités de distribution des biens plus performantes. Au fond, l'argent ne se distingue guère des tickets de rationnement et dans un monde idéal, on souhaiterait sans doute se rationner le moins possible. Évidemment, tout cela repose sur une supposition. Les gens se mettraient au travail, ou en tout cas chercheraient à se rendre utiles, sans qu'il soit besoin de les y forcer. Comme on l'a longuement démontré ici, c'est une supposition, on ne peut plus raisonnable. Dans leur immense majorité, les êtres humains, s'ils ont le choix, aiment autant faire autre chose que passer leur journée devant la télé. Et la petite poignée de vrais parasites qui subsistera ne représentera pas un fardeau aussi terrible, puisque la quantité de travail à abattre pour assurer le confort et la sécurité de la population n'est finalement pas si considérable. Les workaholics compulsifs, qui ne peuvent s'empêcher de faire plus que le nécessaire, compenseront largement l'inactivité de ces quelques feignasses.